Alors, pour faire suite à ce que je vous ai raconté l'année dernière à Strasbourg sur la reconstitution de l'école de pharmacie en 1919, et ce que je vous ai aussi raconté à l'Assemblée générale l'année dernière à Rouen sur ce qui s'est passé à l'école de pharmacie de Nancy pendant la guerre de 14, j'ai continué mes investigations sur les professeurs qui y avaient été, et il m'a semblé que, en cette période de commémoration de la Première Guerre mondiale, il n'a pas été beaucoup parlé des pharmaciens, ni d'ailleurs du service de santé en général. Et donc, parler d'un illustre pharmacien, professeur à différents endroits, ça pouvait être intéressant aujourd'hui. Auguste Sartori a commencé sa carrière universitaire à Paris. Il l'a continué à Nancy pendant très peu d'années. Il a ensuite été professeur à Strasbourg pendant fort longtemps. Il a été doyen, il a subi la défaite de 1940 et il a dû se replier à Clermont-Ferrand. Et à l'époque, le couronnement d'une carrière universitaire s'est passé à Paris, comme vous le savez. Et il a terminé sa carrière, malheureusement, pendant très peu de temps, à la faculté de pharmacie de Paris, où il était le professeur de microbiologie. Alors, compte tenu des très éminents services d'Auguste Sartori, il m'a semblé intéressant de vous en dire un mot. Il faut bien sûr dire un petit mot de qui était Sartori Auguste avant qu'il ne vienne à Nancy, puisque donc il a commencé sa carrière à Paris, carrière d'abord d'étudiant. Il était né à Limoges en 1881. Il a fait comme beaucoup ses études de pharmacie à Paris, puisque à l'époque c'était la grande école de pharmacie. Il a suivi un cursus tout à fait classique, le cursus hospitalier, pharmacie, une licence de sciences, un doctorat en sciences naturelles. Il est devenu préparateur, c'est-à-dire assistant, et préparateur dans des disciplines qui existaient déjà à Paris, alors qu'elles n'ont normalement été créées que par la réforme de juillet 1909, qui a séparé et individualisé deux disciplines très importantes, la microbiologie d'une part et la cryptogamie d'autre part, parmi d'autres, hein, parce qu'il y en avait quelques autres qui ont été comme ça individualisés par cette réforme. Et il a été successivement, Sartori, assistant de microbiologie, donc ça c'était très précoce si on peut dire, et assistant de cryptogamie, et la cryptogamie va devenir sa grande spécialité pendant toute sa vie. Il a aussi été très rapidement distingué par les prix d'académie, et vous voyez que n'étant qu'assistant à l'école de Paris, à l'époque, il avait déjà eu deux prix par les académies les plus importantes de l'histoire, et qu'il avait même été cité pour le prix Montyon, qui est un prix extrêmement ancien et extrêmement prestigieux, comme vous voyez. Et puis voilà, donc Sartori à l'époque où il nous arrive à Nancy, à gauche, et Sartori à l'époque où il était jeune professeur à l'école supérieure, enfin à la faculté de pharmacie de Strasbourg, après 1920. Je trouve que le portrait en lunettes à gauche est très beau, et je pense que je le mettrai dans la revue si Thierry le veut bien. Alors pourquoi est-ce que Sartori arrive à Nancy? Ça c'est tout à fait étonnant. Sartori arrive à Nancy en 1912 parce que manifestement, on ne veut pas nommer professeur de pharmacie chimique celui qui est agrégé de chimie, qui est parfaitement capable de faire, mais qui a très vraisemblablement déplu, et qu'on trouve un système pour lui couper la route du professorat. Effectivement, celui auquel je pense, qui était un très bon enseignant, s'entendait beaucoup avec ses étudiants, et on chantait en chœur pendant les séances de travaux pratiques. Et ça avait très, avec sa bénédiction, si j'ose dire, et ça avait très très fortement déplu au directeur de l'école, qui était venu à plusieurs reprises calmer le jeu pendant les séances. Et donc je suppose que, compte tenu de ce que j'ai lu par ailleurs, il y a eu quelques oppositions. Et vous voyez que Sartori, assistant à l'école de pharmacie de Paris en bactériologie et cryptogamie, est nommé chargé du cours magistral de pharmacie chimique à Nancy en 1912, discipline dont on peut se demander s'il a des compétences. On peut penser que oui, et on dit qu'il faisait un cours extrêmement intéressant à Nancy, et il va aussitôt, bien évidemment, compte tenu de ses compétences, devenir chargé de cours complémentaires, comme on disait à l'époque, et comme on a encore connu ça, beaucoup plus récemment, donc vous voyez en hydrologie, en minéralogie, en microbiologie, qui sont des cours qui sont sortis en partie de la réforme de 1909. Et puis il prend la présidence de la Société Lorraine de Mycologie, il est membre du jury du premier concours d'internat, parce que nous à Nancy, on a attendu très longtemps avant d'avoir un concours d'internat, parce que les hôpitaux disaient que ce n'était pas du tout utile d'avoir ce genre de collaborateur. Et il est à l'époque déjà aussi dans une commission au ministère du Travail, donc à Paris. Et donc, Sartori arrive en 1912, il déploie très rapidement une très importante activité, et puis il est reçu au concours d'agrégation de 1914, et pas du tout comme c'est écrit partout, pour devenir agrégé à Nancy, parce qu'il n'y avait pas de place à Nancy. On trouve une combine pour le nommer, il est nommé agrégé à Paris, en service détaché à Nancy, comme chargé du cours de pharmacie chimique, et donc de microbiologie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis la guerre arrive, c'est mon sujet. Mais entre-temps, il y a une énigme intéressante quand même, vous allez pouvoir peut-être me dire, voilà une série de cartes postales qui a été éditée par l'école de pharmacie de Nancy avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez un chargé de cours très studieux, là. C'est Sartori qui lit un livre dans son laboratoire. Jusque-là, ça n'a rien de particulier. Mais là, vous voyez une dame. Or, à l'époque, il n'y a aucune élève en pharmacie à Nancy. Aucune. Et par ailleurs, il n'y a aucun collaborateur féminin à l'école de pharmacie. Donc, il serait intéressant de savoir ce que fait cette dame, qui elle est, qui elle est, quelle est sa fonction, parce que c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Il a fallu le retour, et je crois que maintenant elle est très largement dépassée. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, la guerre arrive. La guerre arrive. Sartori était sous-lieutenant de complément, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire pharmacien major de deuxième classe. Il avait eu la gentillesse de se faire inscrire à Nancy en arrivant, ce qui montre qu'on lui avait certainement dit qu'il avait une grande carrière qui l'attendait à Nancy. Et très curieusement, mais de façon très intelligente, il est nommé chef du service de bactériologie de la région militaire à l'hôpital militaire à Nancy, alors même que jusqu'alors, les médecins s'opposent le plus vivement possible à ce qu'un pharmacien puisse faire de la bactériologie de façon tout à fait officielle. En général, ça gênait beaucoup leur carrière quand ils en faisaient. Il y en a des célèbres comme ça dans le service de santé militaire. Et Sartori va rester pendant 2 ans le patron de cette structure. Il va s'associer avec les professeurs de la faculté de médecine et en particulier dans une activité qui est très très importante en Lorraine à l'époque, mais dans tout le service de santé, mais parce qu'il y a une grosse épidémie dans la voie de la fratrie de Verdun à l'époque, qui va nous coûter à peu près l'équivalent d'une division d'infanterie pendant cette année-là, c'est-à-dire 15 000 morts. Et donc il va travailler avec un très célèbre professeur de médecine, Spielmann, de la grande famille des Spielmann de Strasbourg, et ainsi de suite, et pour travailler sur la typhoïde et les fièvres paratyphoïdes, avec de très nombreuses publications à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, donc qui vont aussi contribuer à ce qu'il soit encore mieux connu. Et puis, bien évidemment, quelqu'un d'aussi brillant ne peut qu'être aspiré par une affectation à Paris, et donc en mars 1916, Sartori est affecté à Paris dans des affectations qui sont tout à fait intéressantes. D'abord, il appartient au service de renseignement. D'abord, il appartient aussi à la section technique du service de santé. La section technique, c'est ce qui met au poids les matériels, les techniques, ainsi de suite. Il est un petit peu, pas très longtemps, pharmacien chef des Invalides. Et puis après, il appartient au service de renseignement de l'armée, puisque vous voyez qu'il écrit qu'il est chef du laboratoire de la section de recherche, deuxième bureau, hein, tout le monde sait ce que ça signifie, à l'état-major de l'armée. Et puis, il va être aussi membre du jury des concours qui, à la fin de la guerre, dans les dernières parties, conduisent à la nomination de pharmacien auxiliaire en faisant des petits cours qui durent 2 mois ou 3 dans les écoles de pharmacie. On en a eu 2 comme ça à Nancy, mais il y en a eu aussi, bien sûr, ici, à l'école de Paris, et qui permettent aux élèves n'ayant pas terminé leur scolarité d'avoir quand même un grade. Il va, bien sûr, bénéficier des décisions du gouvernement de promotion des officiers subalternes du service de santé, aussi bien médecins que pharmaciens, à des grades supérieurs qui étaient capitaines quand on était agrégé et commandant quand on était professeur titulaire de chaire, ce qui va lui arriver. Et puis, il devient, à sa création, en mars 1918, membre de la commission pour l'étude de la thérapeutique des intoxications par des gaz de combat, c'est son titre officiel, et il va donc certainement participer à la rédaction des fiches techniques et des procédures que le service de santé met au point, comme le médecin comme Wavenel par exemple, pour ça. Et sans être jamais allé au front, sans avoir aucune citation pour autre activité d'éclat, sur d'éclat comme d'habitude. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur, et c'est écrit comme ça, pour service exceptionnel. Donc c'est dire qu'il a dû s'illustrer beaucoup, donc le 14 juillet 1917. Mais c'est pas tout. Parce que Sartori, qui est arrivé à Nancy avec un exposé de ses travaux à peu près fabuleux, avec déjà à peu près 150 publications, donc son âge, comme vous voyez, va continuer à publier, à diriger des thèses, à s'occuper de la Société Lorraine de Mycologie, à s'occuper de différentes activités au profit, par exemple, des enfants des écoles, des intoxications par les champignons que les gens vont ramasser pour pallier les problèmes que l'on peut avoir de nourriture pendant la guerre de 14. Et on arrive donc à une foule de travaux. Il y en a environ 70 pour les 4 années de guerre. Donc on se demande comment il arrive à faire tout ça, les jours ne faisant que 24 heures, comme vous savez. Et donc c'est vraiment incroyable. Il y a tout un ensemble de publications sur la typhoïde et les paratyphoïdes au début, un certain nombre de publications de bactériologie, mais surtout des publications qu'on peut appeler de cryptogamie parasitaire, donc qu'on peut mettre dans la parasitologie. Il y a l'écriture de 4 ou 5 livres, un livre sur le traitement des plaies de guerre, donc quelque chose qui intéresse énormément l'infection des plaies de guerre, vous savez, le daquin, le drainage des plaies en continu, comme ça s'est fait à Compiègne, etc. Et puis plusieurs ouvrages, des ouvrages sur les prélèvements, donc vous voyez, bactériologie à l'usage des pharmaciens, mycologie parasitaire à l'usage des pharmaciens, ça ce ne sont que quelques exemples, et beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, le livre sur les plaies de guerre, c'est pas un livre de très très grande importance, on n'a pas 500 pages, c'est plutôt une sorte de vademécum qu'on peut avoir dans sa poche, mais quelque chose qui bien sûr est extrêmement important en ces années de guerre. Et puis participation à des thèses de médecine, une thèse de médecine, mais c'est quand même tout à fait exceptionnel qu'à l'époque on fasse participer un professeur de pharmacie à une thèse de médecine. Encore aujourd'hui, c'est pas ultra courant, même si c'est devenu beaucoup plus banal. Et puis, bien sûr, les sujets qui posent problème aux services de santé, la question de l'eau, qui a duré toute la guerre, qui est extrêmement importante, bien évidemment, parce qu'il faut des quantités d'eau absolument colossales l'ensemble des gens sur le front, et c'est les pharmaciens qui s'occupent des secteurs d'approvisionnement en eau. Bien sûr, vous ne serez pas étonné qu'il y ait une thèse qui soit faite sur la typhoïde, compte tenu du grand sujet que ça a été. Donc, vous voyez encore une autre thèse sur les eaux d'alimentation, et puis la contribution, là il n'est pas directeur de thèse, la contribution à cette thèse qui a été soutenue après la guerre, donc vous voyez sur toujours le même problème, celui de la bactériologie des plaies, auquel on ne s'attendait pas. Et puis encore d'autres choses, vous voyez par exemple les problèmes de stabilité de la piqûre des tentes militaires et des champignons qui peuvent s'y mettre, c'est quand même assez inattendu. Et puis encore des travaux sur les intoxications phalloïdiennes, par exemple, qui ont pu être faites. Les livres, je vous en ai déjà parlé. Il a aussi écrit 2 livres avec son élève mère sur des champignons, des champignons supérieurs, donc des travaux sur de la mycologie. Donc vous voyez que ça n'arrête pas. Et puis, les cours, tant qu'il est à Nancy, puisque après, ça a été quasiment impossible, et qu'il a fallu choisir d'autres chargés de cours. Donc, vous voyez, jusqu'en 1916, il est là, et il assure toute la pharmacie chimique, toute la chimie organique, toute la microbiote, y compris les TP, la cryptogamie, pareillement, et puis encore un cours public de mycologie, qui se fait à la fac, comme il existe encore d'ailleurs, donc pour le grand public. Les académies continuent à penser à lui. Il avait déjà deux fois été lauréat avant. Il est encore 2 fois lauréat pendant la guerre. J'aimerais bien en avoir autant. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Donc, soyons modestes. Et malheureusement, il nous quitte très rapidement. Il n'est pas le seul. J'en ai donc parlé l'année dernière à Strasbourg. Il a été nommé professeur titulaire en 1918. À Nancy, dans la chaire de pharmacie chimique. C'est comme ça qu'il a été promu au grade de commandant, parce que c'était quelque chose qui était prévu par le système militaire. Mais dès qu'on parle de créer une nouvelle école de pharmacie à Strasbourg, on pense à lui. Peut-être avait-il fait acte de volontariat, parce que ça existe chez certains. Certains professeurs de province ont fait acte de volontariat en disant, dès qu'on recréera quelque chose à Strasbourg après la victoire, je suis volontaire pour devenir professeur à l'université. Alors, je n'ai pas trouvé le courrier. Il faudrait avoir le bonheur de trouver ce genre de document. Donc, il est nommé titulaire à Strasbourg, à Nancy d'abord, et puis, donc vous voyez, nommé à titre provisoire, parce que c'était le commissaire général de la République qui procédait aux nominations à titre provisoire avant que le président de la République ne les nomme par décret. Donc, à partir du moment où l'école de pharmacie était créée, et on a choisi, comme vous savez, la date du 22 novembre 1919, parce que c'était l'anniversaire de l'entrée des troupes françaises à Strasbourg en 1919. En 1918, pardon. Voilà, donc vous voyez, pour conclure, donc arrive à Nancy en 1912, pour des raisons quelque peu inconnues qu'on peut imaginer, un chargé de cours pourvu d'un dossier extrêmement solide, qui est, bien que n'ayant pas encore le titre de professeur pendant 2 ans déjà, quelqu'un d'extrêmement actif et extrêmement brillant, qui continue pendant les 5 années de guerre, parce que la guerre, vous savez qu'elle dure 51 mois, et que les gens ne sont pas démobilisés le 11 novembre 1918, mais beaucoup plus tard, et pour les jeunes soldats, c'est seulement pendant l'été 1919, pour beaucoup d'entre eux, ce qui a encore gêné l'obtention du diplôme de pharmacien. Donc une activité très très soutenue sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan universitaire, donc des promotions de grade qui obéissent à la réglementation, mais une nomination dans la Légion d'honneur qui montre son intérêt. Et puis, donc, malheureusement pour nous à Nancy, il faut bien le dire, mais tant mieux pour Strasbourg et ensuite tant mieux pour Paris. Donc, un départ pour aller dans cette maison que certains ont connue et que je vais vous montrer pour terminer. Donc, c'est l'école, c'est l'Institut de pharmacie que les Allemands avaient créé à l'époque de l'annexion, qui était tout neuf, pas du tout adapté aux besoins d'une école supérieure de pharmacie, parce qu'il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de cours, mais qui a quand même servi pendant très très longtemps. Je vous remercie.
Y a-t-il des questions ?